Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Une des traditions parmi les plus remarquables et souhaitables du Collège de France est pour un professeur, ici Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques, de pouvoir inviter un collègue étranger à donner des leçons, au nombre de 4 en général, sur un sujet en relation avec les travaux de la chaire afin d'en éclairer des aspects importants par des biais inattendus. Nous allons donc suivre cette semaine des leçons données par le professeur Helmut Müller, dont les travaux sur les inscriptions de Pergame permettent d'ouvrir un pan d'histoire encore aujourd'hui trop méconnu. Pergame a toujours été, comme on sait, un des terrains privilégiés de l'archéologie allemande. Il suffit d'aller à Berlin, dans l'île au musée, et de s'asseoir sur les marches du grand hôtel de Pergame pour se sentir transporté dans un passé à la fois lointain et pourtant tellement vivant encore aujourd'hui. Le professeur Denis Knopfler ouvre cette série de leçons et présente son éminent confrère. Écoutez.
Invitez le docteur Helmut Müller, ou disons Müller, puisque le nom est si fréquent en France, ou même Helmut, pour les intimes, n'a pas été tout à fait aisé. Et je me flatte d'y avoir réussi pour votre plaisir, votre instruction et la mienne. Notre ami Helmut n'est pas un mondain, un homo communicans que l'on voit hanter tous les colloques de par le monde. Il préfère travailler dans sa bonne ville de Munich au sein de cette Commission für alte Geschichte und Epigraphik, qui a été le centre, le cœur de sa vie scientifique pendant 40 ans au moins, et le reste, Dieu merci. Une autre raison lui faisait hésiter à répondre positivement à notre invitation, l'obstacle de la langue. Mais c'était surestimer beaucoup cette difficulté. Puisqu'en réalité, notre hôte maîtrise le français avec une grande aisance, comme vous vous en apercevrez. Il est d'ailleurs un peu chez lui à Paris, dans cette maison même où il a été dès 1968. Il est venu suivre les cours du maître Louis Robert. C'est là que plusieurs d'entre nous l'ont rencontré pour la première fois. Donc, à ce souvenir de nos jeunes années parisiennes, j'associe la mémoire de Louis Robert, notre maître commun, de Jeanne Robert aussi, sa collaboratrice de tous les instants, et le souvenir aussi de ma propre épouse Martine. Helmut Müller eut bien entendu d'autres maîtres, d'abord en Allemagne. L'un a compté très particulièrement dans sa formation, c'est évidemment Christian Habicht, dont il a suivi l'enseignement à Heidelberg et dont il a été l'assistant, en fait, dans cette même université, jusqu'au départ de Habicht pour Princeton. C'est sous sa direction et sous celle d'un autre excellent historien qui, lui, est décédé, Fritz Schnitzer, qui a fait sa dissertation inaugurale, comme on dit, publiée peu après, en 1974, sous le titre « Milesische Volksbeschlüsse ». C'est un petit livre, mais qui est grand de substance, par ses résultats, qui dépassent de beaucoup le seul cas de Millet pour l'étude des institutions. Même si la bibliographie de Helmut Müller ne compte pas 500 numéros, je ne vais pas énumérer ici tous ses travaux, mais souligner globalement leur extraordinaire solidité, y compris les tout premiers. Helmut Müller s'est payé le luxe de faire un article qui reste tout à fait excellent à l'âge de 21 ans. Qui dit mieux ? Il s'est agi souvent pour lui d'étudier une expression négligée, un mot méconnu. Il y a des exemples, j'en cite deux. Le bel article de 1975, Fugue Sénéken, en raison de l'exil, sur la mise en sécurité à l'étranger, dans une cité étrangère, des biens menacés. Et il y a eu plus récemment, en 2005, un article extraordinaire, Emi Olios, un mot qui avait été méconnu dans une inscription, dans une lettre de Maine de Pergame, et dont il a montré la vraie signification en étendant ses conclusions à tout l'empire d'Alexandre et au royaume hellénistique. Depuis, Helmut Müller travaille essentiellement, peut-être, dans ces dernières années, sur l'épigraphie, l'histoire de Pergame, en vue de publier un recueil très attendu des inscriptions de cette métropole. Il y a dans cette série, publiée le plus souvent dans la revue Chiron, celle de l'Institut en question, un certain nombre de documents que notre hôte a fait connaître, avec une érudition souvent époustouflante. Me vient à l'esprit en particulier un article qui n'est pas commode, hein. Il faut s'accrocher, certainement, mais qui est magnifique, sur une épigramme votive de Pergame, d'une richesse tout à fait étonnante pour l'histoire politique, pour l'histoire de la sculpture et même pour l'histoire de la littérature, voire de la littérature athénienne, de façon tout à fait inattendue. D'autres inscriptions reste à publier. Je pense que Helmut fera allusion de façon plus ou moins discrète dans ses leçons. En tout cas, nous le remercions dès à présent d'avoir bien voulu accepter cette invitation pour nous donner un aperçu d'abord général de cette histoire si intéressante pour toute l'Asie mineure et pour tout le monde grec, et pour avoir accepté aussi de le faire dans notre langue. J'ai déjà pour lui une médaille du Collège de France, mais que je ne lui décernerai qu'au terme des quatre leçons. Cher ami.
Merci, Denis, pour cette introduction, comme ce sont les introductions presque toujours trop flatteuses. Merci quand même. Mesdames, Messieurs, chers collègues et aussi chers amis, c'est un grand honneur pour moi d'avoir la possibilité unique de pouvoir parler devant vous ici, au Collège de France, à l'endroit même où j'ai eu la chance, comme l'a déjà remarqué Denis Knopfler, de suivre les cours de Louis Robert, d'abord pendant l'année universitaire 1968-69, puis dans les années suivantes et jusqu'au 1974, d'abord pendant les vacances universitaires allemandes et enfin, encore une fois, de façon permanente pendant les deux dernières années précédant la retraite du maître. Tout jeune étudiant, puis doctorant et enfin assistant à l'université de Heidelberg que j'étais alors, ces années et cet enseignement, sans oublier l'expérience vécue des personnalités exceptionnelles qu'étaient Jeanne et Louis Robert, ont certes marqué mon destin futur d'une façon définitive. Un de mes camarades d'alors n'était d'autre qu'un certain Denis Knopfler, qui, lui, plus tard, allait devenir le successeur digne du maître à la chaire d'épigraphie au collège, et qui, en tant que tel, a eu la gentillesse de me proposé comme candidat à la charge de conférencier invité à l'Assemblée des professeurs du collège. Et je ne peux qu'espérer de me montrer digne, tant soit peu, de cette confiance, au moins dans les grandes lignes. Dans le cadre de ces quatre conférences, je vais donc vous présenter l'essai d'une esquisse de l'histoire de la cité de Berkham pendant l'Antiquité, et cela décidément sous l'angle de vue d'un épigraphiste. N'attendez-vous donc surtout pas à un résumé complet de l'histoire de la cité, d'une représentation d'ensemble encyclopédique englobant tous les aspects de sa vie, culturelle, cultuelle, artistique, etc., mais au contraire à la présentation d'une vie très personnelle qui ne reflètera que mes intérêts propres ainsi que leurs limitations évidentes. Le tout sera garni de la présentation de quelques inscriptions inédites dont vous aurez ainsi la primeur. Cette présentation ne peut avoir pour l'instant qu'un caractère tout à fait provisoire, vu le fait que leur interprétation est encore loin d'être achevée. Ces esquisses, parce qu'il ne peut s'agir encore que de cela, devraient vous démontrer au moins l'intérêt historique de ces documents, autant que les limites souvent insurmontables concernant leur compréhension historique, dû à l'état pour la plupart fragmentaire, voire très fragmentaire, de leur état de préservation. J'espère ainsi, même si cela seulement dans un cadre très modeste, de satisfaire à la vocation du collège d'enseigner le savoir en train de se constituer. Je ne peux qu'espérer également que vous seriez en mesure de montrer un peu de compréhension et d'indulgence envers le fait que, face au caractère incomplet et encore provisoire de l'exposé de mes pensées concernant ces inscriptions inédites, je ne me sens pas en mesure de vous donner les textes dans les mains et que je me contenterai de vous les présenter que temporairement et sous forme de projection. Finalement, vous avez certes déjà eu l'occasion pendant ces quelques instants de remarquer le caractère au mieux rudimentaire de ma maîtrise de votre langue maternelle. Et je ne peux qu'espérer, encore une fois, que vous serez en mesure de supporter tous ces barbarismes dont je serai coupable à tout moment, et surtout de me les pardonner par la suite. Le simple fait que le site de Pergame, la Bergama turque actuelle, va être connu de tous mes auditeurs me permet d'abréger sa présentation considérablement, en vous rappelant seulement que la ville se trouve située à environ 24 km de la mer, dans la vallée du Kaïk, le plus au nord et le plus petit des trois fleuves traversant l'Asie mineure occidentale de l'est à l'ouest. Cette vallée du Kaïk, qui formera plus tard le noyau de la petite principauté dynastique des Attalides, se présente tripartite. Tout à l'est, la vallée du Haut-Kaïk, aujourd'hui la plaine de Kirkkaç, bordée au nord à l'est par la misie des montagnes et des forêts, comme l'appelait un jour joliment Louis Robert, est séparée par un seuil facile à passer, formé d'une chaîne de collines de la Lydie du Nord, et dont le centre formait à l'Antiquité la cité de Stratonicée. Séparée d'elle par un défilé étroit près de la ville moderne de Soma, la vallée du Kaïk moyenne était dans l'Antiquité l'endroit où se plaçaient les cités d'Apollonia au nord-est et de Gambraion, aujourd'hui Poyraçık, près de l'actuel centre administratif de Kinik. Cité que Poyraçık, Gambraion, cité que nous retrouverions dans un instant. C'est enfin près de l'acropole de Berquin que la vallée se referme à nouveau pour déboucher ensuite dans la vaste plaine du Caïque inférieur avec, aux époques classiques et hellénistiques, les petites villes de Toidrania et Halicarna, que nous retrouverions tous les deux dans un instant aussi, pour déboucher enfin à la ville portuaire d'Elaïa. Le cœur de tout ce dispositif est formé, nous l'avons vu, par l'acropole de Pergame, haute de quelques 326 mètres au-dessus de la mer, forteresse qui devait se montrer imprenable pendant toute l'Antiquité et jusqu'à l'époque des incursions arabes au début du 8e siècle. Elle ne semble pourtant pas avoir été le lieu des premiers peuplements humains qu'ait connu la vallée, celle-ci se trouvant plus à l'est, dans la plaine même, près de Toidrania, comme l'ont montré des prospections scientifiques menées pendant les dernières années seulement. Les premières traces d'une fortification à l'acropole de Pergame sont datables, mais d'une façon encore hautement hypothétique, du 7e siècle ou un peu plus avant. S'y ajoutent que quelques bribes de restes architecturaux en terre cuite et de minces fragments de céramique. Les premières traces de Pergame dans la littérature historique nous sont dues, vous le savez tous, à Xénophon, qui, juste à la fin de son récit de l'Anabase, raconte comment lui-même et le reste de ses troupes venant de l'Ampsaque étaient accueillis à Pergame par Hélas, dame aux noms parlants et programmatiques, et veuve à ce qu'il semble d'un certain Gongulos. C'est Anabase 7, 8, 8 à 24. Hélas, elle, la maîtrise de Pergame, attire l'attention de Xénophon sur l'existence du domaine d'un riche Perse du nom d'Acidates dans la contrée, qui pourrait fournir du butin riche et facile à se procurer. Mais contre toute attente, l'affaire tourne courte, la résistance d'Acidates se prouvant trop efficace, et avec l'aide des troupes perses régulières stationnées aux alentours, elle fut repoussée. Sonnant à la retraite, le déplacle put être averti seulement par une marche en formation de carré et l'aide militaire apportée à la dernière minute et à l'encontre de la volonté de sa mère Hélas par Gongulos et de Proclès, descendants de Damaratos. La deuxième tentative de capturer Acidates ayant été couronnée de succès, Xénophon pouvait, riche de butin, mettre ses troupes ensuite dans les mains du lacédémonien Tibron, qui, pendant ce temps-là, menait campagne contre les Perses, d'ailleurs sans grand succès. Rendant compte de cette même campagne dans les Helléniques, Xénophon se montre un peu plus précis concernant nos seigneurs grecs de l'Éolide et de la vallée du Caïque, c'est 3, 1, 5 à 6. Tibron, je cite, s'empara de Pergame, qui se rendit volontairement, de Teutrania et d'Alisarna, où commandaient Eurysthénès et Proclès, descendants de Damaratos le Lacédémonien, à qui le roi avait fait présent de ce pays pour l'avoir accompagné dans son expédition contre la Grèce. Il vit aussi venir à lui Gorgion et Gongulos, deux frères, qui possédait l'un Gambraion et Palaegambraion l'autre. Nous n'avons d'ailleurs aucune idée où se trouve Palaegambraion, probablement tout à fait proche de Gambraion seulement, mais ce n'est pas vraiment localisé. Et maître aussi de Murina et Grunaion. Ces villes avaient été données par le roi à Gongulos parce que, ayant été le seul des Érythréens qui eut épousé le parti des Mèdes, il avait dû s'exiler. Ainsi, nous faisons connaissance d'un personnage nouveau, Eurysthénès, et de Proclès, que nous avons déjà rencontré, tous deux descendants de Damaratos et seigneurs de Toitrania et Alisarna et de suite de la basse vallée du Caïc. Hélas, elle est curieusement absente du tableau. Pergame, en tant que ville, étant mentionnée à sa place, sans mentionner d'autre part c'est le fils Corion, seigneur de Murina et de Crunaeon, sur la côte Éolide, et Gongulos, qui est maître aussi de ce, à qui doivent être attribués, à cause du secours administré à Xénophon lors de la déroute pendant l'aventure d'Acidatès, les seigneuries de Gambrion et de Palaigambrion dans la vallée du Caïque moyen, mais je crois que vous savez maintenant localiser Gambrion. On va plus clair d'après ce passage la raison de l'attribution de ces, je dirais pour faire court, même si c'est anachronique, seigneuries par le grand roi à ces personnages. Ce sont des services rendus au roi et des revers subis à cause d'eux. Damaratos, qui avait accompagné le roi dans son expédition contre la Grèce, et Gongulos, qui avait été le seul des Érythréens à épouser la cause des Perses, et dû choisir, pour cette raison, de prendre la route de l'exil. Quant à la nature exacte de ces dons, qui ne sont pas aujourd'hui de mon propos, il suffira ici, dans cette salle, de renvoyer aux œuvres de Pierre Brion concernant cette question. Ce que les récits de Xénophon laissent entrevoir sur le statut de ces petits seigneurs et parmi d'autres le fait qu'il leur était possible de mobiliser une force militaire propre, même peut-être minime, et qu'ils avaient assez naturellement une petite cour embryonale de proches de souches grecques autour d'eux, que nous pouvons apercevoir en la personne de Daphnagoras, le confident le plus proche de Hélas. Il se peut qu'une nouvelle inscription nous fasse connaître un deuxième, ou au moins le descendant d'un deuxième. Depuis 2 ans se trouve au jardin du musée de Pergamon un bloc d'antésite local portant l'inscription suivante. En Tidoros Chalcidois ap Euripou. J'aurais certes bien aimé de pouvoir présenter à l'Érythréen que Denis Knöpfler un autre Érythréen, mais malheureusement, les choses étant telles qu'elles sont, il doit se contenter d'un Chalcidien. Au moins, il s'agit d'un Ébéen. L'inscription n'étant pas gravée sur une stèle, mais sur un bloc architectural, elle va avoir fait partir à l'origine d'un monument funéraire. Et parce qu'elle semble, d'après le peu ce que j'ai pu établir jusqu'à ce moment, provenir d'une fouille d'urgence du musée de Bergama, il serait important d'en savoir plus sur le contexte de la trouvaille, tant qu'architectural qu'archéologique. Mais malheureusement, je ne possède pas encore ces informations cruciales pour définir le statut social du défunt. Reste son nom. D'après le Lexicon of Greek Personal Names, auquel a participé Denis Knöpfler aussi, Antidoros semble loin d'être un nom banal. Qu'il soit attesté assez souvent à Athènes ne peut pas dire grand-chose vu la masse des inscriptions provenant de cette ville. Plus expressives semblent les attestations du nom en Grèce centrale, dont 3 amphocides, Delphes inclus, et 6 exemples en Béotie. Mais c'est précisément le B qui se taille la part du lion avec 8 attestations, dont 2 exactes émanent d'Érythrée. Notre Antidoros de Chalcide s'insère donc bien au tableau existant. Enfin, les témoignages littéraires nous font connaître un grammaticos de Chimée en Éolide autour de 300 avant Jésus-Christ, ainsi qu'un philosophe ennemi d'Épicure dont on ne sait pas s'ils sont identiques ou non. Que le nom du père d'Antidorus ne soit pas nommé constitue un élément plutôt surprenant, normalement aux époques hellénistiques et romaines au moins. Se nommer ou d'être nommé avec le nom, seul nom, a la signification de le fameux « the one and only », comme le diraient si joliment les anglophones. En plus, il faut noter qu'il ne se dit pas pergaménien, mais bel et bien Chalcidorus, a priori, d'après sa patrie originelle. Un peu à la manière des philoïdes des rois hellénistiques, dont quelques-uns gardaient eux aussi leur citoyenneté d'origine. Mais d'autre part, il n'est même pas sûr qu'il y ait avec quelque chose comme une citoyenneté pergaménienne au moment de la mort d'Antidorus. Ce qui nous mène à la dernière et cruciale question que la nouvelle inscription nous pose, celle de sa date. Une chose au moins est sûre. Jugeant d'après l'écriture, notre seul repère, l'épitaphe que nous avons sous les yeux présente une des inscriptions les plus anciennes que le sol de Pergame nous ait livré jusqu'à ce jour. La dater plus exactement s'avère au contraire très difficile, voire impossible, faute d'autres documents comparables, et en plus bien datés eux-mêmes. Une seule inscription, une dédicace à Poséidon, nommée Potaïdan, semble être plus ancienne, mais il est loin d'être sûr qu'elle soit vraiment d'origine pergaménienne. D'après les particularités du dialecte, il semble qu'il y ait bien des chances qu'elle faisait part du butin ou des achats d'œuvres d'art que les Attalides avaient apporté à Pergame. L'inscription est Athénische Mitteilung 32, 1907, numéro 22. La datation de deux autres inscriptions gravées sur les colonnes du temple d'Athéna est liée au problème épineux de la datation de ce monument, dont la commune Communis Opinio du moment place la construction au dernier tiers du IVe siècle, mais la discussion est loin d'être close. D'autre part, une inscription ne provenant pas de Pergamème, mais des environs de Poyrachek Cambrion, est bien datée par l'année du règne d'Alexandre le Grand, dans l'année 326-325, et que j'aurai l'occasion à vous présenter plus en détail dans quelques minutes, me semble montrer des traits d'écriture plus avancés que l'épitaphe d'Antidorus, à tel point que je suis enclin, en somme, de dater ce dernier monument vers le milieu ou dans la première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Comme je l'ai déjà remarqué, il serait décisif d'en savoir plus sur les circonstances de sa découverte. En attendant plus de précision, on pourrait penser à un des nombreux tumuli trouvés un peu partout autour de Pergame, mais dépourvus d'inscriptions, qu'on a découvert ces dernières années et d'imaginer son propriétaire défunt comme étant un de ces courtisans des seigneurs de Pergame, dont nous avons rencontré un exemple en la personne de Daphnagoras, le confident préféré de Hélas, ou un de ses descendants. On peut et on doit peut-être se poser la question si le ralliement de ces seigneurs au lacédémonien Tibron avait des conséquences pour eux après la conclusion de la paix du roi et le rétablissement de son autorité sur la côte est de l'Égée. En regardant de plus près une autre inscription de Pergame, il me semble bien qu'on puisse répondre à cette question de façon affirmative. Cette fois, il s'agit non pas d'une inscription documentaire au sens strict du terme, mais d'un texte littéraire gravé sur pierre. Et cela, 5 siècles et demi après les événements qui nous intéressent à présent. En effet, l'inscription dite « La chronique de Pergame » se présente comme un abrégé de l'histoire de la ville et de la dynastie Attalide depuis leur origine mythique. Comme je l'ai laissé entendre il y a un moment, la gravure de ce texte doit dater du IIe siècle après Jésus-Christ, époque de la séquence sophistique, de l'esprit de laquelle elle est un exemple majeur. Et il est plus que déplorable que l'emplacement de ce monument aux dimensions qu'on doit imaginer grandioses soit inconnu jusqu'à présent. Le fragment que je vous présente dans votre dossier sous le numéro 3 raconte, à partir de la ligne 4, que le satrape rebelle Orontes avait pris Pergame et déplacé les inhabitants de nouveau au Colonos, dans la ville ancienne, c'est-à-dire l'Acropole, et avait remis la ville ensuite aux mains du grand roi Artaxerxès II avant de mourir. Un événement qui a dû se passer quelque part dans les années 350, la date exacte restant pourtant controversée. Il s'ensuit que la population avait dû être déportée de force de l'Acropole dans la plaine quelque temps auparavant. Quand et pour quelles raisons une telle mesure a pu être appliquée? Il me semble que le moment propice pourrait avoir eu la reprise en main des possessions près de l'Égée par le grand roi et la cassation des seigneuries ayant choisi la part des ennemis. Développement d'ailleurs que Hellas semble avoir voulu éviter quand elle essayait en vain d'empêcher son fils de venir en aide aux Grecs des 10 000 dans leur camp contre des contingents réguliers de l'armée perse. Autant que la reprise en main d'une forteresse redoutable par une garnison perse, après en avoir chassé la population auparavant. Les raisons qui ont incité Orontes à changer cet état de choses pourtant propice au pouvoir perse restent cependant mystérieuses. Mais ce sont les premières lignes de ce fragment de la chronique de Pergame qui méritent eux aussi une attention particulière. Un certain Archias semble avoir persuadé, si du moins la restitution est la bonne, mais il doit de toute façon s'agir de quelque chose dans ce genre-là, alors d'avoir persuadé les Pergaméniens d'élire chaque année un prétoire, office qu'Archias lui-même assuma le premier et que, poursuit la chronique, ses descendants continuent à exercer jusqu'à présent, c'est-à-dire le millier du IIe siècle après Jésus-Christ. Rappelons que l'époque du passage de Xénophon, Pergame était sous la tutelle de Hellas, qui, à ce qu'il semble, détenait tout le pouvoir, et cela de façon exclusive. Pas de trace de l'existence d'une cité à ses côtés. Avec le témoignage de la chronique concernant l'institution d'une magistrature suprême qui devrait être éponyme, il me semble bien que nous saisissons le moment exact de la naissance d'une police à la grecque à Pergame. Naissance qui va se placer quelque part entre, nous l'avons vu, 399, l'heptate du règne de Xénophon contre Asidates, et celle d'Orontes dans les années 360-350. Cette magistrature d'un prétoire éponyme qui sera plus tard cumulée avec la prêtrise du premier des Attalides, Philetairos, comme l'avait pu montrer Michael Wörle et moi-même, sera promis à un avenir durable. C'est la chronique elle-même, nous l'avons vu, qui nous le dit clairement en soulignant que les descendants du premier titulaire assumaient l'office encore au IIe siècle après Jésus-Christ, et les inscriptions sont là pour corroborer cette longévité de la magistrature. Ces descendants d'Archias, j'en suis convaincu malgré les avis contraires exprimés ces dernières années, nous les saisissons pourtant pas en leur qualité de prétoires, mais celle des prêtres d'Asclépios. En effet, nous savons pour Saint-Ignace qu'au IVe siècle aussi, un certain Archias, fils d'Aristaïs Pantaïkmos, en reconnaissance d'une cure miraculeuse par Asclépios à Épidaure, avait institué une succursale du culte du dieu guérisseur dans sa patrie Pergame, sanctuaire promis à un avenir brillant. Et ce sont les inscriptions, autant que le récit de Délius Aristide, qui nous montrent ces Archias, Aristaikmos, Asclepiades, dans l'exercice de leur office religieux. Mais il y a plus. Nous avons la chance de posséder même le décret datant, d'après Louis Robert, de la fin de la monarchie attalide à cause de la mention de l'Atelaia Panton Honhe Curia Polis Curia Estine, dont le décret dessert le conseil et le peuple à jamais la prêtrise d'Asclépios à Asclépiades, fils d'Archias et ses descendants. Ainsi, nous avons pu assister, au moins je le crois, à la naissance d'une polis grecque d'Asie mineure. L'avenir de cette cité reste toutefois dans l'ombre pendant des décennies à venir. Et pourtant, il existe bel et bien une inscription datant du règne d'Alexandre à Pergame, document connu depuis le XVIIIe siècle et que l'on croyait définitivement perdu jusqu'à ce que j'aie eu la chance de la retrouver à Pergame. Exploit, je dois bien l'avouer, pas trop difficile, la pierre se trouvant dans les réserves épigraphiques de la maison de fouille allemande, mais personne ne l'avait jamais remarqué. Bon. Quand et dans quelles circonstances elle est échouée, là reste cependant aussi un complet mystère. Je n'ai pu rien retrouver sur l'histoire de cette pierre qui se trouve bel et bien là, mais personne ne sait. Pas d'archives, rien. Alors, contentons-nous du fait qu'elle est bien là. Bon. Cette inscription est datée de l'année 21 du règne d'Alexandre, c'est-à-dire 326, 325, ou à la rigueur 325-324, ça dépend du compus, et procure ainsi un précieux témoignage pour le style d'écriture de l'époque dans la vallée du Caïque moyen, et dont vous avez déjà vu une des conséquences il y a un moment. J'ai dit dans la vallée du Caïque moyen, ce qui nous mène à la question épineuse de son attribution. En effet, elle a été trouvée encastrée autrefois dans un puits près de Poyratchuk, que connaissons maintenant, proche de Keneklams, ancienne Cambrai. Était aussi encastrée dans le même puits une loi sacrée qui, elle, provenait sans aucun doute de cette dernière cité, Cambrai. D'autre part, notre inscription montre comme éponyme, à côté du roi et de son satrape de la Lydie Menandros, bien connu par ailleurs, un Britanne nommé Isagoras, ce qui nous emmènerait, d'après ce que nous avons appris tout à l'heure, à Pergame, respectivement, le territoire de la cité. Mais nous ne connaissons pas, par manque de documents, le titre de l'éponyme de Gambraion. Cette constatation est loin d'être prouvante. Il se peut bien que Gambraion ait eu comme éponyme un Britanne elle aussi. La question de l'appartenance de l'inscription au territoire, soit de Pergame, soit de Gambraion, reste donc insoluble. Les pierres voyageant facilement dans la vallée du Caïque, comme le notait une fois de plus Louis Robert. En effet, cette pierre qui se présente en forme d'un oros a dû être érigée non pas dans le cadre d'une agglomération urbaine, mais dans son territoire. Son contenu, il va bien avec, s'agissant d'un bail entre un certain Kratoias, le propriétaire, et un Aristomenes d'un territoire agricole amphithéotique, d'un jardin, probablement un verger, et les terrains à bâtir. Kratoia étant un beau nom macédonien, nous voyons ainsi des compagnons d'Alexandre bien installés en tant que grands propriétaires terriens dans la vallée du Caïque moyen, quelques années seulement après la conquête. Soit-il sur le territoire agricole de Pergame ou celui de Cambrien. L'événement capital pour l'histoire, pas seulement d'Asie mineure occidentale, que fut le passage du conquérant, n'a pas laissé d'autres vestiges épigraphiques à Pergame. C'est la tradition littéraire, en l'occurrence Justin et Diodore, qui nous a transmis la notice selon laquelle Pergame a été assigné comme résidence, peut-être bel et bien en tant que résidence surveillée, à Barcine, une des concubines perses d'Alexandre, et auparavant femme des frères Rhodiens, mentor d'abord, puis de même nom, ensemble avec son fils Héraclès, un des héritiers présomptifs du roi, et de ce fait, dûment éliminé en 309. Tout un échafaudage d'hypothèses a été construit à partir de ce fait. En premier lieu, mais pas seulement, de la part des archéologues et numismates. Heureusement pour moi, Maristine Marchelesi a déjà mis en évidence dans son livre sur le monnayage de Pergame à l'époque hellénistique que la théorie selon laquelle le monnayage de Pergame au type d'Héraclès serait à mettre en relation avec le séjour de peut-être Héraclès, fils d'Alexandre, ne repose sur aucun fondement. J'ajouterai que l'hypothèse complémentaire d'après laquelle Héraclès et Barcine seraient responsables de l'introduction du culte d'Athéna dans la ville et de la construction de son temple n'ont pas de base non plus. Toutes ces hypothèses restent ce qu'ils sont, des hypothèses et rien d'autre. Et on peut seulement présumer que Pergame a dû partager le sort de cités d'Asie mineure occidentale pendant l'époque troublée des guerres des Diadoques. La cité ne réapparaîtra pour nous que pendant le règne de Lysimaque, plus précisément à l'extrême fin de ce règne, et cette fois avec éclat. Nous apprenons en effet que vers 283-82, un certain Philétaïros, fils d'Attalos de Thyaion sur la côte sud de la mer Noire, mais vu le nom probablement de souche macédonienne malgré tout, se révolta contre Lysimaque, dont il gardait le trésor, ou pour être plus précis, un de ses trésors, d'un montant de quelques 9000 talents à Pergame, pour prêter allégeance ensuite à Séleucos Ier, vainqueur de Lysimaque à Corupidion en 281. Le statut officiel, le rôle exact dont jouissait Philétaïros ou Séleucos et son successeur immédiat, Antiochos Ier, est loin d'être absolument clair. Une chose importante, au moins, semble certaine. D'une façon ou d'une autre, le maître de l'acropole de Pergame semble avoir eu main libre d'utiliser ce trésor, le trésor sous son contrôle, à sa guise et à ses fins propres, en se construisant par des actes évergétiques tout un réseau de cités dépendantes. Ainsi, on le voit soutenir les Sicyciens pendant au moins 5 années, pas nécessairement consécutives, par une fondation au profit des Néoés. Alors, cette fondation au profit des Néoés, par exemple, une aide militaire pour la cavalerie, une exonération de taxes de transit en cas de guerre, etc., dans les années entre 280 et 270. Et autre donation de Philétaïros, consacrer une terre à la divinité principale d'Aegae en Éolide, Apollon Crestérios. Mais les cités du voisinage n'étaient pas les seules à profiter de la générosité bien ciblée. D'autres cités de l'Égée ou de la Grèce continentale étaient visées par elles aussi, comme par exemple Délos, sanctuaire international fameux, ou Thespion, mais aussi, ou le maître de Pergame dans plusieurs dédicaces se dit tout simplement Philetaeros Pergamois. En l'an 2000, nous avons appris quelques détails supplémentaires concernant les relations de Philetaeros avec une autre cité des alentours de Pergame, à savoir Chimée d'Éolide. Sur une stèle mutilée en bas et à la droite, publiée par Giacomo Vanganaro dans le Chiron de cette année, et je me permets, dans ce qu'il suit, de paraphraser le résumé de Philippe Gautier dans le bulletin épigraphique de cette année même. Sur cette stèle, donc, sont gravés d'abord un décret de la cité, puis une courte lettre du fondateur de la dynastie des Attalides, Philetaeros, en réponse au décret précédent. Enfin, un second décret de Chimée, plus détaillé, agréant les bienfaits de Philetaeros et prenant des décisions adéquates. La cité avait besoin de boucliers afin d'équiper les citoyens et d'assurer la protection de la ville et du territoire. Deux ambassadeurs furent désignés pour se rendre auprès du dynaste pour négocier la livraison de 600 boucliers, pris parmi ceux dont Philetaeros disposait, boucliers qui seraient ensuite attribués aux citoyens à raison de 50 par tribu, détaillant en même temps les détails du financement prévu. Dans sa réponse, Philetaeros note que l'atelier qui fabrique chez nous les boucliers avait été fermé, mais que néanmoins, comme lui-même disposait d'une réserve de 1000 boucliers, il avait décidé d'en remettre gracieusement 600 aux Chiméens. Les Chiméens décident ensuite d'inscrire sur chacun des 600 boucliers le nom de Philetaeros et celui de la tribu à laquelle l'arme serait affectée, et ils prescrivent des peines sévères à quiconque voudrait ou donnerait en hypothèque l'un de ces boucliers. En outre, les Chiméens votent divers honneurs à Philetaeros, outre l'éloge et une couronne d'or, l'érection d'une statue acrolite. De son côté, le dynaste jouait déjà d'un culte à Chimée, puisque cette statue doit être installée dans l'oïkos d'un philetaeron existant. En outre, à l'époque où les décrets sont adoptés, la cité célèbre de fête appelée Soteria kai Philetaeria, comme aussi de Dionysia kai Antiochia. Ces cultes impliquent d'importants bienfaits de la part du dynaste Philetaeros comme de la part d'Antiochos Ier. Ainsi s'esquisse, même si ce n'est que d'une façon encore vague, la position du dynaste Pergame envers son suzerain Séleucide. Tous les deux jouissent d'un culte et des agones à Chimée, celui de Philetaeros étant rehaussé pour la circonstance. La cité était donc dépendante de deux maîtres au même temps. Philetaeros, lui, est dans la situation concrète, l'interlocuteur diplomatique et assistant attendu des Chiméens. Et de fait, il pouvait disposer librement et sans concertation préalable avec Antiochos des arsenaux se trouvant à Pergame, ainsi qu'il était libre d'imposer et de remettre des douanes et impôts, comme il le fit, nous l'avons vu, en exemptant les Sicéliens des taxes sur l'exportation et le transit des marchandises du bétail et du bétail en cas de guerre. C'est le fugueux Sénèque d'avoir les Denis Knöpfler. Permettez-moi une dernière remarque avant de clore cette digression chiméenne. Bien sûr, la décision des Chiméens de faire inscrire sur les 600 boucliers pas seulement les noms des Fulai, mais aussi philetairou, est un signe d'honneur et de reconnaissance pour le don de ces boucliers par Philetairos, ces boucliers qui, on peut dire, venaient de lui. Mais il ne faut pas perdre de vue un autre aspect, un aspect différent, pas remarqué jusqu'à présent, si je ne me trompe pas au moins. Des trouvailles archéologiques ont montré en effet que les boucliers qu'utilisaient les armées des rois hellénistiques portaient en règle générale le nom du monarque respectif au front. Donc, la petite troupe de 600 miliciens de Kimé-Ville, qui dépendant quand même toujours en premier lieu du roi Séleucide Antiochos Ier, a dû apparaître à l'ennemi présentif comme une armée de Philetairos. L'importance de Philetairos pour les Pergaméniens et l'estime qu'il portait pour lui s'éclaire par le fait que la magistrature du Britannis éponyme que nous avons rencontré va être cumulée en union personnelle avec la prêtrise du premier Dunast et que c'est lui qui sera vénéré encore en plein premier siècle avant Jésus-Christ, et probablement encore après cette date, comme deuxième fondateur de la ville, après le mythique héros Pergamos. Les seuls vestiges épigraphiques directs que Philetairos nous a laissés à Pergame même consistent en deux dédicaces au texte identique, soit du temple de Déméter, construit par lui et son frère d'ailleurs, et de son autel en l'honneur de sa mère Boa. Le sanctuaire de la mère des dieux du Mamourt Calais n'appartient cependant, contrairement à une opinion répandue, surtout dans les milieux archéologiques, pas à la cité de Pergame, mais à environ 30 km à voile d'oiseau de cette dernière, sur le sommet le plus élevé de Yuntdag, la montagne séparant la vallée du Caïc de celle de Nermos. Il marque la frontière du territoire contrôlé par le dynaste avec la Lydie et par conséquent la zone de souveraineté directe de Séleucide. Et par conséquent, c'est dans cette direction aussi et pas celle de Pergame qu'il se trouve aligné. Nous ne sommes pas en mesure de juger la manière dont Philetairos gérait ses relations avec sa capitale. Le seul document datant peut-être de son règne étant un décret concernant l'attribution d'Isopolitie réciproque avec la petite cité éolide de Temnos. D'après seulement, faute d'autres moyens de décider. L'accord date du temps de Philetairos, le règne de Lysimaque n'étant d'autre part pas tout à fait exclu non plus. L'initiative pour cet accord venant de Pergaméniens, il n'y a néanmoins pas de trace d'une ingérence du dynaste. La police faisant son plan, au moins, d'agir d'une façon tout à fait indépendante. Le texte étant basé sur un avis des stratèges et ratifié par le conseil et le peuple. Mais n'attendant surtout pas des documents officiels de ce genre de nous révéler les arcana de la politique des cités et de leurs relations avec leurs souverains, à de rares exceptions près. Nous sommes un peu plus sous le règne du successeur de Philetairos, son neveu et fils adoptifs eux-mêmes, 263 à 241. On ne sait pas en quelle année exactement, mais de toute façon, peu après la mort de Philetairos, cet Eumène bâtit Antiochos Ier près de Sardes, la capitale des territoires séleucides de l'Asie mineure historique, et s'émancipa ainsi de son suzerain séleucide. L'armée qui lui valait ce succès nous est connue, au moins en partie, par le fameux traité que le dynaste était forcé de conclure avec des contingents de ses mercenaires rebelles, nous montrant ainsi la position encore fragile du dynaste à l'époque. Sans entrer dans les détails de ce document bien connu de tous, je voudrais seulement faire observer que ces clauses semblent montrer l'étendue du territoire contrôlé par le dynaste à ce moment, s'étendant de la forteresse de Philetaeraea au pied du mont Ida, vraisemblablement située proche d'Atramitium, à Attalaya à la marge est de la haute plaine du Caïque. Les villes côtières de Piratane et de Laïa, au contraire, semblent encore échapper au contrôle du dynaste, qui, néanmoins, a déjà dû être en possession d'une flotte de guerre, comme le montre également l'accord avec les mercenaires. Ce document capital à part peut être connu du règne d'Eumène, à l'exception d'une autre inscription, fameuse à bien des égards, elle aussi, qui nous occupera par la suite. C'est elle qui jette un regard unique sur les relations entre le souverain et sa capitale.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Helmut Müller, invité par la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite des leçons du professeur Helmut Müller consacrées à l'antique cité de Pergame. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.